Ah, quel bonheur de le voir! C'est un grand bonhomme, je sais pas comment il mesure, 6'2", 6'3", c'est un pan de mur! 10h30, Mark Hamilton, microbiologiste, qui est en studio, le grand boss des laboratoires Eurofins Environex. C'est le boss aussi des microbiologistes, on peut dire
oui,
ça?
Oui, ben, de l'association, on est plus de 500 membres, et puis j'ai des missions pour, afin que l'Office des professions du Québec ou la ministre Lebel puisse... faire reconnaître ta profession pour en avoir un ordre professionnel. C'est ouais. Ma mission depuis 2 dernières années. Pas facile, me dire, pas facile. De...
Qu'est-ce que ça impliquerait, cet ordre professionnel des microbiologistes, Marc?
Bien, écoutez, tu sais, il y a 46 ordres professionnels au Québec. Il faut penser qu'un ordre professionnel, il y a beaucoup qui pensent que c'est un syndicat, c'est là pour améliorer les conditions des gens, puis parce que tu as un ordre professionnel, tu as un meilleur salaire, puis des meilleures conditions. C'est pas du ça du tout la mission d'un ordre professionnel. Un ordre professionnel est là pour protéger le public, pour s'assurer que les gens donnent les bons services, qu'ils ont un code de déontologie, une marche à suivre, ouais. que les gens ont la bonne formation, des bonnes qualifications, qui fait qu'on protège en tout temps le public. Un exemple, les médecins en ont une, les infirmiers, même les massothérapeutes en ont. Donc, tous les métiers qui font en sorte qu'on peut protéger le public. Bon, un exemple proche de nous aussi, les chimistes ont un ordre professionnel. Et nous, les microbiologistes, ben, je dirais qu'on est la seule, je dirais, profession qui n'est pas reconnue, du moins, qui travaille beaucoup avec le public, surtout en santé humaine. Rappelez-vous juste le temps de la COVID. Le temps de la COVID, c'était nous qui faisions les tests de COVID, puis on ne pouvait même pas en faire l'interprétation. Donc, un exemple, demain matin, tu avais un test COVID, je te le faisais devant toi, puis je ne pouvais même pas te dire que tu étais positif ou négatif parce que je n'avais pas un autre professionnel qui m'empêchait de le dire. Donc, il y avait plein d'actes comme ça. Ça a été très, très aberrant durant la COVID. Je me suis battu fort comme quoi, que voyons, pourquoi que quelqu'un qui n'a aucune compétence en virologie peut parler et donner des résultats à quelqu'un parce qu'il y a un autre professionnel, puis moi, je ne peux pas le faire. Donc, il y a plein d'usurpation de titres qui se fait, le charlatanisme durant la COVID des gens qui se disaient experts en virologie, experts en microbiologie, qui commençaient à conspirationner sur la vaccination, sur l'interprétation de toutes sortes de virus. On ne pouvait pas les intercepter. Moi, j'avais des appels. « Marc, connais-tu ce tel-là? » Donc, il n'est pas membre. À ma connaissance, il n'est pas microbiologiste. Mais il se disait microbiologiste et il n'y avait aucune sanction qu'on pouvait faire ou une poursuite. Donc, la personne pouvait conspirationner comme elle voulait, puis ça prenait vraiment une plainte.
Donc, moi, je pourrais dire que je suis microbiologiste, puis il n'y a pas personne qui pourrait m'empêcher de dire ça.
Bien, c'est sûr que si tu mets en vie, tu mets en danger la vie d'une personne, ouais. Tu vas avoir une poursuite pénale, mais il n'y a pas un autre professionnel qui pourrait t'empêcher de le dire. Et c'est ce que nous, on milite beaucoup, de faire reconnaître la profession. Elle existe. Écoutez, on est 500 membres, mais on sait qu'il y a plus de 2000 microbiologistes au Québec, mais on est 500 membres, puis nous, on milite. Ma mission, c'est principalement ça. Depuis 2 dernières années, je pousse qu'à faire reconnaître la microbiologie et elle est de plus en plus en vogue. On sait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend parler? Les nouveaux virus émergents, les bactéries qui ont une multirésistance aux antibiotiques, on entend parler de charlatanisme, la grippe aviaire. Qu'on va entendre bientôt.
Mais on en parle de moins en moins. Toi, tu étais venu m'en parler, tu me dis, Yann, ça, là, faut absolument en parler de ça, la fameuse grippe aviaire. Puis là, dans les dernières semaines, peut-être à cause du gros orange l'autre bord, on en parle peut-être un peu moins.
Bien, on en parle moins parce que là, quelque part, on est comme, surtout au Canada, là, du moins dans une, je dirais, un redout. Il faut faire attention parce que la grippe aviaire, il faut penser qu'à la base, qui sont porteurs du virus de la grippe aviaire, c'est surtout les oiseaux migrateurs. Et là, présentement, les oiseaux migrateurs qui sont porteurs de la maladie, bien là, sont en migration vers le Canada. Puis là, on a un printemps un peu tardif, il y a encore de la neige dehors, donc on les voit moins, les oiseaux migrateurs. Mais présentement, ils sont en route, il y en a beaucoup déjà qui sont arrivés. Donc on regarde les outardes, les oies blanches, les canards et tout ça qui arrivent, qui ont passé l'hiver au sud, qui vont ramener le virus de la grippe aviaire au Canada. Ils l'ont même renforcé aux États-Unis parce qu'il y a plusieurs mutants qui sont apparus aux États-Unis. Fait qu'eux, ben, on risque d'être porteurs de ces fameux mutants-là qui sont plus forts, qui peuvent même s'attaquer aux mammifères. On sait qu'aux États-Unis, la grippe aviaire, qui s'attaque principalement aux animaux de basse-cour, entre autres, surtout les poulets, les poules. Et une des raisons pourquoi qu'aux États-Unis, on dit tout le temps, hey, les œufs sont rendus excessivement chers. Ben, ils ont tué plus de 40 millions de poules pondeuses dans les 6 derniers mois.
Je parlais avec notre chroniqueur international hier, Louis Gauthier. 12 piastres, 12 œufs aux États-Unis.
Ouais.
Hey, c'est cher.
C'est 4 fois le prix. C'est 4 fois le prix de ce que ça vaut habituellement. Nous, présentement, au Canada, on est chanceux parce qu'on n'a pas vraiment encore d'épidémie de grippe aviaire. Cependant, moi, ma grande crainte, c'est qu'on sait que la grippe va revenir, du moins avec les oiseaux migrateurs. Et lorsque les oiseaux migrateurs vont commencer à côtoyer, exemple, les poules en liberté, donc comment ça s'attrape entre poulets, si vous voulez, mais prenez le canard ou l'outarde qui arrive, puis qui va arriver pour manger, tu sais, dans les champs, bien souvent, on va voir plusieurs centaines d'oiseaux sur le bord du chemin qui sont en train de brouter en tant que tel. Bien souvent, ils ne sont pas très loin de basse-cour, de ferme. Et ils vont côtoyer ou s'approcher proche de poules. Et bien souvent, le poulet va manger même, des fois, les excréments de ces des fientes, si on veut, de ces oiseaux migrateurs-là. Et ces fientes sont fortement porteurs de la grippe aviaire. Et c'est comme ça que les poules transmettent la maladie d'un poulailler à l'autre. Et c'est mortel pour eux. On sait que la grippe aviaire qui rentre dans un poulailler, parce que les poulets sont très ensemble. Il peut y avoir 10 000 poulets, mais ils sont un par-dessus l'autre tout le temps. Fait que la transmission se fait vraiment juste parce qu'ils se touchent, parce qu'ils se picochent entre eux autres, parce qu'un mange des fientes de l'autre, etc.
Mais comment tu sais que ta poule est infectée?
La poule va avoir...
Tu prends celle-là qui tousse.
Mais la poule, en tant que telle, il suffit juste qu'il y en ait une qui soit positive. Bon, quels sont les symptômes d'une poule qui est positive? Mais la poule, probablement, va s'alimenter moins. Elle va faire de la fièvre, elle va avoir une diarrhée et elle va avoir vraiment des œufs dont elle va pondre de moins en moins. Une poule qui va prendre 1 à 2 œufs par jour, elle n'en pondra pas. Elle ne mangera pas, elle va avoir de la fièvre et elle peut mourir subitement après 5 jours. Donc, quand on voit 1, 2, 10 poules, poulets qui ont ces symptômes-là, là, la panique pogne parce que tu te dis, ouf, le virus est rentré chez nous. Il faut s'attendre que les autres poulets risquent d'être infectés.
Puis, il n'y a pas moyen de prévenir d'une façon ou d'une autre. Ça a l'air niaiseux comme question, mais je me dis, mettons, moi, j'ai un poulailler demain matin ici, là, je veux un vaccin, je veux quelque chose à donner à mes poules ou un antibiotique ou pour prévenir que ça s'en vienne dans mon poulailler, là.
Je sais qu'aux États-Unis, au Canada, c'est pas encore en vogue. Bon, aux États-Unis, ils commencent à vacciner les poulets, les poussins, en tant que tels, contre la grippe aviaire, pour pas qu'ils développent la maladie. Au Canada, c'est, à ma connaissance, c'est pas encore en vigueur. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais écoutez, là, le virus avance beaucoup plus vite que notre capacité à vacciner les poulets. Quand on parle qu'un poulet, des fois, un poulailler peut avoir 10, 20, 30, 40, 50 000 poulets et plus. Puis aux États-Unis, c'est pire encore. Quand il y a un poulet qui rentre, faut que tu penses que tes 50 000 poulets risquent d'être irradiés. Donc, ils n'ont pas le choix de les euthanasier pour limiter la propagation du virus d'une basse-cour à l'autre. Donc, c'est très contagieux. Et l'autre chose, c'est que à côtoyer les poulets, ou même juste souvent, quand il y a des poulets, il y a d'autres animaux autour, mais on sait que la grippe aviaire se transmet aux animaux, comme bien souvent les chats, les chiens qui vont attraper la grippe aviaire. Il y a même des chiens qui peuvent en mourir, des chats aussi, généralement, ils s'en tirent mieux que les poulets. Ce qui m'inquiète beaucoup, quand c'est une grippe d'un oiseau, bien souvent, c'est très complexe de rendre ce vaccin, le virus, compatible avec un être humain. De sorte que bien souvent, la grippe aviaire, l'être humain ne l'attrapera pas. Mais le problème qu'on a avec la plusieurs variations qui s'est passée dans les derniers temps, il y a eu plusieurs mutants qui fait que le virus, présentement, part d'un poulet, il peut est infecté un mammifère. Et un des problèmes qu'il y a aux États-Unis présentement, c'est que la grippe aviaire est rendue que les vaches, les bœufs, attrapent la grippe aviaire. Heureusement pour eux, ce n'est pas mortel. Par contre, une semaine de temps, fatigués, mangent pas beaucoup, faut pas consommer leur lait parce que leur lait a une viscosité différente. Donc, la vache, généralement...
Ça a un impact sur la production.
Sur la production.
Ah, ouais.
Et ce qui est la transmission entre vaches ou entre bœufs, c'est en utilisant les instruments pour traire le lait. Donc, autrement dit, les traieuses automatiques, quand ils passent d'un pied de vache à l'autre, une vache infectée va infecter l'autre vache par juste l'instrumentation qui va se transmettre d'une vache à l'autre. C'est par le lait. Le lait reste porteur de la maladie. Et qu'est-ce qui plaît? Encore une chance qu'au Canada, même aux États-Unis, on pasteurise le lait. Donc, le fait de pasteuriser le lait, c'est qu'on va le mettre à 60 degrés pendant quelques secondes, voire des minutes. Je n'ai pas vraiment la recette. Bien, on monte à 60 degrés le lait. Et à le monter à 60 degrés, quand on se pasteurise, bien, on élimine le virus de la grippe aviaire.
Okay.
De sorte qu'il ne se rendra pas à l'humain par le lait. Par contre, si on prend du lait cru, en tant que tel, qu'on boit le lait du puits de lavage directement ou un lait non pasteurisé, bien là, à ce moment-là, on peut être en contact avec le lait qui est porteur de la maladie. Et il y a quand même une soixantaine de personnes qui l'ont attrapé, cette fameuse grippe aviaire-là. Il y a même quelques morts aux États-Unis qui ont réussi à infecter des gens qui, malheureusement, n'avaient pas une santé vraiment bonne et qui en sont décédés. Au Canada, une jeune fillette de 15 ans dans le bout de Vancouver qui l'a eu, qui a passé très près de mourir et elle s'en est sortie. Donc, là, présentement, le virus de la grippe aviaire, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne se transmet pas d'humain à humain. Donc, si quelqu'un attrape la grippe aviaire, bien, il n'y a pas de danger qui te la transmet. Du moins, pas encore. Et le problème qu'on s'inquiète beaucoup, c'est à force d'avoir des mutations, comme on a eu dans le temps de la COVID, hein, rappelle-toi, il y avait un mutant à tous les mois qui arrivait, mais Omicron, etc., on a peur que à la longue, parce que le virus court beaucoup dans les basses-cours, que les humains côtoient des animaux infectés, qu'il y ait un mutant qui pourrait faire en sorte que la grippe aviaire pourrait, hein, c'est pas impossible, causer une épidémie chez l'être humain, de sorte que l'être humain va pouvoir s'infecter un peu comme on attrape la grippe entre humains. Donc, il y a des vaccins. On sait que le Canada a plus de 500 000 doses de vaccins, le H5N1. De disponible pour, du moins, commencer à vacciner les gens qui sont les plus exposés à la grippe aviaire. Donc, c'est sûr que nous, ici, bien, à Québec, parce qu'on ne travaille pas dans une étable, on est moins à risque, là. Mais les gens qui côtoient beaucoup les animaux, bon, c'est principalement eux qui risquent d'être exposés et du moins attraper la maladie.
Je trouve ça franchement intéressant. Marc, tantôt, moi et Audrey, on regardait le magazine Forbes qui ont regardé qui étaient les nouveaux milliardaires. C'était quoi la liste des milliardaires? Puis là, comme toi, tu as plusieurs chapeaux. Je regardais si ton nom était... Pourquoi t'es pas encore dedans? Travaille pas assez fort.
Ah non, mais écoutez, entre travailler puis avoir le salaire, puis au moins les actifs, mais un milliard, on s'entend que c'est 1000 millions, hein?
Ouais.
Fait qu'on est encore loin d'être là.
Oui? Oh, oui. Bon, okay. Inquiétez-vous
pas, là.
Inquiétez-vous pas, là.
Okay. Ça sera pour l'année prochaine. Marc Hamilton, microbiologiste. Aujourd'hui, on parle des mythes et réalités.
Oui.
Je trouve ça franchement intéressant parce qu'il y a quelques questions là-dedans qui sont embêtantes, pas pires.
Bien, il y en a plusieurs. Puis, écoute, je vais laisser Audrey me poser des questions, mais c'est beaucoup, il faut penser que ces mythes et réalités-là, c'est souvent des choses que les gens pensent tout haut, puis qu'ils croient, mais qu'ils sont pas certains, puis que, bon, tu sais, ça...
T'as entendu ça toute ta vie, tu le prends pour acquis.
Prends pour acquis, ouais. C'est comme ça, c'est des légendes urbaines. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Faut-tu penser qu'il y a une partie de vérité dans ce qu'on peut penser? Fait que j'ai sorti quelques petits exemples.
OK. Mais là, toi, tu connais les réponses. Moi, je les connais pas. Ben, je pense que je les connais
c'est
pas.
C'est ça qui est le fun.
Il y en a peut-être certaines que je connais. Fait que tu me poseras la question à moi, puis après ça, Marc me corrigera.
Bien, on parlait des poules. Fait que je vais essayer de rester thématique. Les poules n'ont pas besoin de coque pour pondre des œufs.
C'est vrai.
Ben, c'est absolument vrai. Les coques sont là seulement pour fertiliser, féconder un œuf. Donc, on veut qu'un œuf devienne vraiment un poussin. Là, le coq n'a pas le choix de fertiliser, si tu veux, entre guillemets, là, la poule, qui va faire un œuf qui va se féconder. Par contre, la poule, elle a la beauté de pondre des œufs sans nécessairement avoir été fécondé l'œuf au préalable. Donc, elle va pondre naturellement une poule pondeuse, un à deux œufs par jour, tous les jours, tant qu'elle
peut. C'est sûr qu'il a créé ça, c'est capoté.
C'est capoté quand même et c'est ce qui fait en sorte que c'est moins compliqué aussi, effectivement.
Les oiseaux ne vont pas laisser leur bébé s'ils sont touchés par un humain.
Les oiseaux ne vont pas laisser leur bébé s'ils sont...
On entend ça souvent.
En fait, est-ce que les oiseaux vont... Si les humains touchent les bébés oiseaux...
Dans un nid. Mettons là, que tu es dans une cabane, tu as une cabane d'oiseaux, tu as des beaux hirondelles. Là. Puis là, tu te dis, tiens, je vais en toucher un. Là.
Celle-là est embêtante. Je vais dire que non, les oiseaux n'abandonneront pas leurs bébés si les bébés sont touchés. Mettons, Mettons, un animal qui a le sens olfactif un peu peut-être plus développé, j'aurais dit oui, mais les oiseaux, je suis pas sûr.
Marc?
Fait que je dirais non. Ils abandonneraient pas leur bébé.
T'as absolument raison. Non. Les études ont été faites que même si l'être humain prenait le poussin, le remettait dans le nid, en aucun temps, l'oiseau reniait son bébé, qui s'en occupait pas. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est que je vous recommande pas d'aller déranger les oiseaux qui ont un nid dans un arbre près de chez vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'oiseau, même si vos doigts ont touché, l'oiseau va faire fi de ça et continuer à prendre soin
Parce que certaines bêtes, que c'est ça, peut-être que je me trompe, mais il me semble que les hamsters, entre autres, si tu touches les bébés, peut-être ils abandonnent ou ils mangent.
À cause de l'odeur.
Oui, c'est vraiment particulier.
Ils ne reconnaissent plus leur bébé.
Mais en termes d'oiseaux, du moins les oiseaux qu'on connaît, les oiseaux au Québec, il n'y a pas de problème pour ça.
Est-ce que c'est vrai qu'on avale 8 araignées par année? Et ça, j'y pense, puis j'ai un frisson interne.
Hey, ça, là, c'est quelque chose qui a couru sur les médias sociaux des années et des années.
C'est pas vrai. Hein?
Moi, je pense que c'est pas vrai. Marc?
C'est pas vrai. C'est carrément un mythe.
Dieu,
là. Je me demande comment on pouvait les avaler. Ils arrivent de où, ces araignées-là? J'ai la bouche ouverte pendant que je dors, puis ils rentrent.
Mais moi, c'est ça qu'on me disait. Ferme ta bouche en dormant, parce que ça va rentrer par ta bouche. Et mon Dieu, que j'avais peur de ça.
Ouais.
Ça m'écœurait bien rien.
Mais c'est probablement juste pour dire quelqu'un qui ronflait ou quelqu'un qui avait la bouche ouverte.
Ça viendrait de là.
Je dirais, écoute, ferme ta bouche, il y a une araignée qui va rentrer dedans, ben, elle va te bouffer à gorge. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas,
Quand je fais du camping sauvage, je dors avec une petite passe d'en face. Ça, je vais te l'avouer, là. Je dors avec une petite passe d'en face pour pas qu'il y ait des mouches qui viennent me gosser, puis tout ça, je déteste ça.
Moi, c'est
pour mourir, ça me réveille tout de suite.
Sais-tu que ce qui m'énerve le plus quand je fais du camping sauvage? Mais quand on dit sauvage, je suis même pas dans une tente, là.
Le bruit des maringouins?
Ah, ça m'énerve.
Quand il arrive sur le bord de tes oreilles.
Tu sais, à 3h du matin, là, quand il se réveille, c'est l'aube, là. Puis là, tu dors, là, puis tu n'entends un qui te gosse, là.
Ouais.
Puis là, t'es là, puis tu le vois pas parce qu'il fait noir, puis là, tu te gosses, puis là, je te jure, là, la panique me pogne, là, parce que, tu sais, t'as beau te cacher la tête,
tes
enfants, ils rentrent, là, tu penses que tu n'as partout, là, puis tu penses qu'ils te piquent en même temps.
Je viens d'en trouver une question à poser à un microbiologiste, puis on retourne dans notre mythe ou réalité par la suite. Un maringouin, est-ce qu'il, s'il me pique, puis je suis atteint d'un virus, tiens, prenons le virus du sida ou encore
la malaria,
et tout ça, puis après ça, il va piquer Audrey. Et peux-tu y avoir une infection?
C'est pas tous les virus. Un exemple, qu'est-ce qui se transmet par les moustiques? Bien, tu parlais de la malaria. La malaria, la dysenterie, la malaria, la piqûre de moustique. Le virus du Nil occidental qu'on retrouve de plus en plus au Québec parce que les moustiques porteurs peuvent nous piquer. Donc, il y a plusieurs maladies, mais c'est plus des maladies de type tropical que les moustiques peuvent transmettre. Au Québec, de mémoire, le virus du Nil occidental est lui qui est le plus susceptible d'infecter une personne, mais il y a quelques virus, effectivement. Mais quand on parle du VIH ou de l'herpès ou des maladies sanguines comme ça qu'on pense venant d'une ITSS, non, les moustiques, le virus ne vit pas dans la trompe d'un moustique, de quelqu'un qui est porteur du VIH, qui fait qu'il peut le transmettre d'un individu à l'autre. Par contre, il y a des virus qui sont adaptés, dont les moustiques sont vecteurs, donc porteurs de la maladie, qui fait qu'on peut le transmettre d'un individu à l'autre.
T'as-tu déjà observé un maringouin quand il te pique? C'est des sadiques. Ils sont en train de te sucer le sang, puis en plus, en arrière, les petites pattes, ils se frottent les fesses.
Oui, ils sont contents.
Ah ouais.
Sais-tu quoi? J'ai déjà vu des vidéos, mais je t'avoue que quand j'ai un moustique sur moi, je prends pas plaisir à attendre qu'il me
bouffe. Savez-vous pourquoi la différence entre un moustique et une mouche noire? En tant que tel, dans sa façon de piquer.
C'est quoi?
Premièrement...
La mouche noire te mord.
Elle a des dents.
Ouais.
OK?
Ça, c'est les fameuses mouches à marde.
Ouais. Non, ça, c'est les petites mouches noires, les brûlots, les tout petits.
Ah, les brûlots, les mini-mini.
Les mini, là.
Ah oui, tu saignes, ça.
Bien, ça, tu saignes parce que...
Les frappes à bord.
Ben, les frappes à bord, ça pique, ça. C'est comme un ton à cheval, là.
Ouais.
Mais la différence entre le moustique, le fameux maringouin, lui, il ne mord pas, il a une trompe. OK? Mais sa trompe, là, ce qui fait que quand il te pique, tu sens rien. Elle est tellement minuscule que lui, ce qu'il fait, il va te piquer. Mais sa trompe est tellement petite qu'il va piquer, puis il n'y a rien qui va sortir. Fait que lui, ce qu'il fait, il va injecter un anticoagulant, une espèce de micro-gouttelette qui va mettre dans ta peau, qui va liquéfier le sang, qui va lui permettre à ce qu'il peut siphonner ton sang.
Mon Dieu, Seigneur!
Donc, à ce moment-là, il se remplit. Puis là, après ça, il s'en va. Et nous, la réaction qui fait qu'on a une bosse sur la peau, vient de ces micro-gouttelettes-là d'anticoagulants qu'il nous a injectés, qu'on fait une réaction immunitaire, genre de petite allergie, si on veut, là, une réaction immunitaire, que notre système dit « Hey, c'est un corps étranger », et on fait une boursouf d'un maringouin. Donc ça, c'est pas un venin, mais nous, on appelle ça un anticoagulant qui permet au maringouin de siphonner notre sang, qui va le rendre très liquide, parce que sa trompe est tellement petite que le sang, s'il n'y a pas ce produit-là, est trop épais pour rentrer dans sa trompe. Tandis que si tu prends la mouche, la petite mouche noire en tant que telle, elle, comme tu dis, elle va aller mordre derrière des oreilles, le cou, elle s'installe, puis elle mord, puis elle va créer une petite lésion. Force de mordre, finalement, là, ça se finit par saigner, puis là, c'est là qu'elle va se remplir. Et c'est pour ça que ça fait des gales. Bien souvent, on se fait mordre par des petites mouches, il y a des petites gales, puis ça saigne un petit peu. Mais ça, c'est le principe de piquer. Il faut penser une chose. Quand on est aux abords d'une rivière, c'est principalement des mouches noires qu'il va y avoir, parce que son mode de reproduction, ça prend une eau qui circule. Quand on est aux abords d'une mare, d'un étang, d'un lac, ça va être principalement des maringouins, parce que le but d'un maringouin dans sa reproduction, ça prend une eau qui est plus stagnante. Donc, quand on est aux alentours d'une mare, quand on est aux alentours d'un étang, vous allez plus vous faire attaquer par des maringouins que par des mouches noires. Les mouches noires, c'est quand vous êtes à la pêche dans une rivière, ça va être beaucoup plus peuplé de mouches noires.
C'est qu'ils se nourrissent de sang, dans le fond, c'est carrément ça.
Le but, c'est seulement que les femelles qui vont piquer. Si on prend un maringouin ou une mouche noire, le but d'une mouche noire ou de tout insecte piqueur, c'est qu'ils ont besoin d'une protéine sanguine qui peut être humaine ou animale, pour féconder ses œufs. Donc, c'est très important pour elle d'avoir une protéine qui va nourrir ses œufs, et c'est essentiel à l'éclosion de ses œufs d'avoir une protéine animale en elle. Donc, c'est la nature qui est faite comme ça, mais c'est principalement les femelles qui vont piquer.
Je t'attendrais.
Moi, tu vois, je faisais le lien là, entre les abeilles qui allaient porter le miel, le pollen, en fait, à la ruche, puis après ça, on transformait ça en miel. Je me disais, bon, peut-être que les moustiques, il y a une conspiration avec Emma Québec. Là, ils élèvent des moustiques, ils les entraînent
pour
ramener
du
sang, pour ramener du sang à la maison. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pour la raison pour laquelle lui il est là, puis moi je suis payé pour dire des niaiseries. Hey, on continue dans nos mythes et réalités, Audrey.
La vie d'une mouche ne dure pas 24 heures.
Non, la vie d'une mouche peut durer des jours et des jours. Là.
Ben moi, j'ai l'impression que oui, parce que celle que j'observe chez nous, là, qui gèle, mettons, l'hiver, là, puis qui commence à mourir tranquillement autour de mes fenêtres, là, ils sont là longtemps.
Toi, tu l'observes.
Ben oui, mais ça...
Tu tolères les mouches longtemps?
Ben, j'aime pas taper la mouche, puis en même temps, j'attends qu'elle meure de sa belle mort. Okay.
T'as combien de mouches comme ça en élevage?
J'en ai beaucoup. Coccinelle des mouches à la maison.
Il y a un problème, là.
Fait que ça dure plus que 24 heures.
Absolument. Les gens disent tout le temps, la mouche, laissée vivante, là, dans 24 heures, elle va mourir. Bon, il y a certains types d'animaux, comme un exemple, beaucoup de papillons, des papillons de nuit, entre autres, qui vont vivre 24 heures. Mais la mouche, comme on la connaît, la fameuse mouche à marde, la grosse mouche avec un ventre de couleur, là, en tant que telle, elle peut vivre plusieurs jours, même passer un hiver congelé parce qu'elle va se réveiller, puis elle va se remettre en vie. Donc, ça peut vivre quelques semaines.
Il y a un texto d'auditeur qui est entré, puis ça me fait sourire. Probablement que tu vas avoir une réponse facile à ça. Là. Est-ce que c'est vrai que de faire une croix sur la piqûre de moustique, ça va arrêter de piquer? Tu sais, on fait ça avec nos ongles. Là. On paye sa piqûre.
Bon, je pense pas, non.
Ça change rien, ça?
C'est comme se soulager en se grattant en tant que tel.
Okay,
ce qui arrive, c'est que quand on se gratte, ça soulage momentanément, mais ce qu'on se fait, c'est qu'on va diffuser le venin plus largement, qui fait que bien souvent, la plaque risque d'être un petit peu plus large.
Fait que faites pas ça.
En tout cas, le but de ça, c'est d'attendre que ça passe.
Mais souvent, de la calamine.
La calamine, il y en a qui vont avoir des. Tu sais, comment ça s'appelle ça, l'espèce de petite crayon qu'on met sur... ça sent fort, là, ça sent l'ammoniac, là. J'oublie, là. Ils vendent ça en pharmacie, là.
Ah oui, ils vendent ça?
Oui, ça, c'est...
88-971-1021?
Oui, c'est... J'oublie le nom, là, mais ça sent fort l'ammoniac.
L'afterbite,
là, c'est une solution riche en ammoniac et ça fonctionne pour enlever temporairement la sensation de piqûre là, que tu te grattes, c'est très bon. L'afterbite, là, c'est bon.
Eh bien, on parlait d'un produit qu'on n'utilise plus aujourd'hui, du moins je le vois plus chez Jean Coutu. Je me rappelle pas si je parlais de ça avec toi ou encore avec Pascal. Mais le fameux, tu fais partie de ma génération, le fameux mercurochrome qui nous mettait sur nos plaies.
Oui. Ça, c'était toxique à l'époque.
Mais pourquoi ils nous mettaient ça? Ils nous détestaient, quoi.
Le mercurochrome est un désinfectant. Et mais écoute, il y a plusieurs versions de Mercurochrome, mais si tu prends les premières versions qui ont sorti dans les années 1900, il y avait réellement un mélange de chrome et de mercure qui était vraiment antimicrobien puissant. Et ils mettaient ça sur les plaies. Mais le problème, c'est qu'on se mettait en contact avec du mercure qui, faut pas que ça rentre dans notre système sanguin, ça occasionnait un autre problème d'empoisonnement à la longue. Plus tard, le mot mercurochrome a gardé parce que le mot mercurochrome est resté dans la tête des gens comme étant un excellent désinfectant. Ouais. Mais il n'y avait plus de mercure dedans ou peu importe le type de minéraux qu'il avait mis dedans. C'était seulement un colorant rouge qu'il mettait avec une espèce d'alcool comme on connaît aujourd'hui. Là, et ça faisait comme juste tacher ta peau finalement, mais c'était pas mieux. Si tu prenais une solution d'iode ou une solution d'alcool, c'est juste qu'elle était rouge et attachée longtemps, mais le côté rouge du mercurochrome,
nous a marqué.
Dans la tête des gens, disait « ça, c'est bon ».
J'aime ça.
Dernière question de mouche, parce que ça fascine nos auditeurs, voyons, visiblement. Là. Est-ce que c'est vrai que la mouche ne grandit pas, elle naît de sa grosseur de vie?
Non, elle naît d'une différente manière. Prenez juste un exemple. Si on prend l'exemple d'un maringouin, si on prend l'exemple d'une mouche noire, bien c'est sûr qu'il y a plusieurs stades avant que la mouche devienne la grosseur qu'elle a. Il y a des larves. Si vous prenez un maringouin, avant qu'il devienne à voler, vous regardez le mardeau, vous allez voir plein de petites larves qui se mettent à bouger. Donc, à l'époque larvaire, ça va durer quelques jours. À un moment donné, elle va se transformer, elle va sortir de l'eau, les ailes vont y pousser, puis elle va devenir maringouin. Il va grossir un petit peu parce que plus il devient mature, plus il grossit un petit peu. Mais ce qui est le plus impressionnant dans une mouche, si on prend les asticots, les fameux asticots qui disent les vers blancs, ouais. Les gens nous disent tout le temps, quand une personne décède, qu'est-ce qui fait en sorte que les vers blancs nous sortent du nez, nous sortent des oreilles, puis on a-tu des vers en dedans de nous qui se développent pendant qu'on est mort? Ces asticots-là viennent principalement des mouches à marde, des fameuses mouches. Et pourquoi qu'on appelle ça des mouches à marde? Sont essentielles à la biodégradation de la matière organique. Elles, ce qu'ils font, c'est pour ça qu'ils appellent ça mouches à marde, fait que partout quelque chose qui se biodégrade, bon, dans ce cas-ci, ça peut être un tas de merde ou une personne qui est en train de mourir, qui meurt, elle va reconnaître quelque chose qui est mort. Puis son rôle, c'est qu'elle va aller pondre des œufs sur cette personne-là.
Et c'est là que les larves arrivent.
Et là, les larves vont être là. Et le rôle des larves, c'est de se nourrir de la matière qui est morte. Donc, les larves vont dégrader votre peau, vont la liquéfier, vont la biodégrader. Et les larves, c'est plusieurs centaines qui vont se mettre à vraiment vous manger. Vous mangez le tas de merde aussi, ça marche aussi. Il y a un point tel...
On
n'a
pas mélangé entre les deux, là, toi ou le tas de merde.
T'sais, mais c'est pour vous donner un exemple, là, que c'est l'utilité d'une mouche en tant que telle. Et après quelques jours, vous allez voir la larve se transformer en mouche.
Ouais.
Et là, elle va quitter, justement, et elle va retourner pondre des œufs dans des endroits qui est en mode de biodégradation. Donc, les asticots que vous voyez sur, un animal mort... Mais les asticots ne sortent pas de l'animal.
C'est
les
des futures mouches.
C'est des mouches qui ont eu pondre des œufs et qui sont devenus des asticots.
Ça, c'est fascinant. Okay. Là.
Mettons qu'on fait un bout là-dessus, l'embaumement. L'embaumement, c'est qu'on coupe vraiment l'oxygène de partout autour du corps.
Bien, il y a plusieurs méthodes. Je ne suis pas un expert en thanatologie, mais il reste que le but, c'est tout dépendant combien de temps on veut que le corps soit exposé avant de l'incinérer ou de l'enfouir.
Ouais.
C'est sûr que le but de ça, c'est idéalement d'y enlever ce qui est biodégradable facilement, ouais, qui est le sang.
Mais la momification, là? La momification, on enlevait toutes les places où il pouvait y avoir de l'oxygène.
Oui, ça c'est vrai. Le corps se momifie, mais il reste que qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait beaucoup de produits, genre d'huile essentielle, de produits qui sont antimicrobiens, qui ont une odeur du camphre, de la lyre, un paquet d'ingrédients comme ça, qui faisait que ça faisait comme mettre un peu le corps dans le formol. Donc, c'était un peu une solution qu'eux avaient inventée. Puis, c'est comme quand tu mets quelque chose dans le formaldéhyde fait en sorte que ton corps va dégradera pas. Donc, c'est un produit qui est tellement puissant qui empêche, bon, va désinfecter un point tel que toute ta flore microbienne ou ta flore de moisissure, de levure qui est en dedans de toi va ralentir, qui fait que ça va prendre énormément de temps avant que tu te biodégrades.
OK. Audrey, envoie-nous dans l'espace un peu. Il y a des questions sur l'espace. J'aime ça, moi.
Dans l'espace, OK. Je vais dire, l'autre côté de la Lune n'est pas le côté sombre.
Shit.
The dark side of the moon.
Ouais, c'est ça. La Lune fait un tour sur elle-même en 27 jours. Fait que techniquement, il n'y a pas de côté sombre, je pense.
La Lune ne tourne pas. Elle tourne autour de la Terre, mais sur elle-même, elle ne tourne pas.
Elle tourne pas en 27 jours?
Non, elle va faire le tour. Ça, c'est peut-être le cycle de la pleine Lune, ces choses-là. Là.
Ouais.
Mais il reste que la Lune, quand on voit la Lune, peu importe quand on la voit dans le mois, c'est toujours la même face. Donc, la Lune, elle, c'est un univers, c'est une boule inerte qui gravite autour de la Terre. Mais la Lune elle-même, elle ne vire pas sur elle-même. Ce qui fait qu'on voit toujours le côté brillant de la même manière, qui fait que le soleil, le côté sombre, on le voit pas. On pense tout le temps qu'on le verra jamais. Mais dis-toi une chose, c'est que la Lune, de l'autre côté, le soleil l'éclaire quand même. Parce que c'est quand nous, on la voit, le soleil l'éclaire, mais l'autre côté, il n'est pas éclairé. Mais le lendemain, le soleil va l'éclairer. Fait que nous, on voit pas le côté sombre. Mais le côté sombre a une présence de lumière quand même, tout dépendant de l'angle de la Lune a par rapport au soleil.
Yann, le soleil n'est pas en feu.
Ben, c'est du gaz qui brûle, là. Le soleil, techniquement, il est en feu. Mais je n'en reviens pas pour la Lune parce que j'ai été persuadé qu'elle avait un cycle sur elle-même de 27 jours. Pourquoi?
Elle, c'est toujours la même face de la Lune. Quand tu regardes, là, tu dis tout le temps, il y a un bonhomme qui scie du bois, là. Mon père me disait ça, il y a tout le temps un bonhomme qui scie du bois sur la Lune, là. Regarde la manière que tu le vois, là.
Tu le vois tout le temps.
C'est tout le temps. Puis c'est toujours la même face de la Lune qu'on voit depuis, bon, depuis qu'elle existe.
Depuis que le monde est monde, c'est ça. Fait que le soleil, tu penses qu'il est en feu, Yann?
Ben, c'est du gaz, oui, là, il sera en feu.
C'est radioactif. Donc, la puissance de chaleur qu'elle dégage, c'est comme si on avait des millions, voire des milliards de bombes atomiques qui fonctionnent en tout temps. Donc, s'il sera en feu, il ne ferait que chauffer. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pogne un coup de soleil?
La radiation.
La radiation. De sorte que c'est comme des... Encore une chance que le soleil est très, très loin de la Terre. S'il serait très collé, on serait radié comme si on avait une bombe atomique. Donc, il y aurait vraiment... Mais le fait que le soleil est aussi fort, c'est que c'est des réactions en continu nucléaire. Donc, c'est vraiment de la fission atomique en tout temps qui lui donne cette couleur, du moins le côté chaud et aussi très éclairant fort. Mais prenez... C'est le même principe que s'il y aurait des... millions, voire des milliards de bombes nucléaires qui exploseraient en même temps tout le temps.
Hey, je suis allé chercher de l'information. T'as raison et j'ai raison sur la face cachée de la Lune.
Oui, vas-y.
Elle tourne autour d'elle, autour de la Terre. La Lune tourne autour de la Terre en 27,3 jours à une distance moyenne de 384 000 km. La Lune tourne aussi sur elle-même en 27,3 jours. À cause de cette égalité entre rotation et révolution, la Lune présente toujours la même face à la Terre.
Bon, ben écoute...
C'est capoté, là!
Ton 27 jours, t'avais raison, mais c'est pour ça qu'on voit toujours la même face. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'on voit qu'elle a un dark side. Mais avec ce que tu viens de dire là, on n'a pas de dark side.
Je me souvenais d'un documentaire où il y avait eu une sonde qui avait fait le côté caché de la Lune qu'on ne voyait jamais. Fait que là, quand tu me disais ça, je me disais, c'est vrai, j'ai vu un documentaire là-dessus, mais j'avais appris aussi, quand j'étais plus jeune, moi j'adore ce qui se passe dans l'espace, que la Lune pouvait aussi tourner sur elle-même. Et tabarouette, on en apprend des choses.
Question d'auditeur. J'en reviens ces mouches une dernière fois. Les mouches à fruits, là,
oui,
ça vient d'où?
Les drosophiles. Ben, les drosophiles, c'est le même principe, c'est que t'as toujours des... T'as toujours des mouches qui... Bon, soit que quand on cultive le fruit puis qu'on ne l'a pas bien nettoyé, le fruit peut être porteur d'un œuf ou pas, qui fait que la drosophile va finir par s'y féconder. Donc, dans le transport, tout dans le pays, où est-ce qu'elle vient. Mais d'ordre général, une drosophile, c'est pas un peu le principe qu'une mouche noire, elle va finir par être là pour reconnaître qui a un fruit à dégrader et elle va se tenir autour d'une plante, elle va se tenir autour d'un fruit quelconque pour pouvoir s'en nourrir.
Puis amener son vin.
Amener son vin, ça se reproduit, c'est le même principe.
OK. Celle-là, je la trouve intéressante. Yannick, les humains ont-ils plus de 5 sens?
Et ça, j'haïs ça, ces questions-là.
Je sais.
Est-ce que les humains ont plus que 5 sens? Je pense que non.
Bon, on sait que les cinq sens, c'est, de mémoire, là, c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et
le goût.
Et le goût. Ouais. Il y a quelque chose qui est propre à l'humain, c'est l'équilibre. C'est un sens, l'équilibre.
C'est vrai? Mais oui.
Fait qu'on a six sens.
On a six sens. Et je sais pas pourquoi, mais on parle pas d'équilibre, mais l'équilibre est un sens. Bien souvent, les gens perdent l'équilibre, ils perdent le sens de l'équilibre. Mais qu'est-ce qui fait qu'un être humain, il se met debout puis il reste en équilibre? C'est un sens.
Tu vois,
ça a rapport avec les oreilles?
Ben, aussi, si tu n'as pas une labyrinthite. Labyrinthite, ouais. Qu'est-ce qu'elle se fait lorsque tu as la maladie des transports? Ou est-ce qu'elle devient un peu là, l'orientation
par rapport?
Labyrinthite, c'est... moi, j'en ai eu deux épisodes de labyrinthite. Puis quand je lisais là-dessus, ça pouvait durer 6 mois. Puis j'étais en état de panique parce que j'étais dans mon lit. Puis mon lit était rendu au plafond. Le plafond, c'était rendu le sol.
Ça tourne, hein?
Puis là, je paniquais. Puis finalement, ça m'a duré 2 semaines. Mais tu peux pas rien faire d'autre qu'attendre que ça passe.
La seule affaire que tu peux prendre encore là, ça fait dormir, c'est de prendre des gravoles.
Pour une labyrinthite?
Pour une labyrinthite, c'est le seul moyen de soulager. Parce que la gravole, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va un peu diminuer... les selles que vous avez dans les selles de la labyrinthite à bouger sans cesse, ce qui fait que son équilibre, son espace, il ne la reconnaît
qui
pas.
Qui crée les maux de cœur.
Qui crée les maux de cœur. Donc, la gravole va soulager, mais ne guérira pas la maladie.
Pourquoi nos veines sont bleues et notre sang est rouge?
Mm-hmm.
Je ne sais pas.
J'abandonne.
Écoute, c'est carrément une illusion d'optique. Bien, on le voit, sont vraiment bleus nos veines. C'est parce que dans la manière où est-ce que la lumière reflète notre peau, les longueurs d'onde des lumières font en sorte que le rouge va absorber la lumière. Et il n'y aura plus, la couleur rouge va disparaître parce que le sang l'absorbe, ce qui fait qu'il va faire ressortir la couleur bleue de tes veines. Donc, c'est carrément une diffraction de la lumière qui fait que le rouge va être absorbé par la lumière dans tes veines et le bleu, la perception du bleu, le rouge, parce qu'il n'est plus là, le bleu ressort de tes veines, c'est un pur jeu de lumière qui crée ça. Donc, quand on opère quelqu'un, tu dis, ben voyons, ma veine n'est pas bleue. Elle n'est pas bleue. Quand tu opères quelqu'un, les veines ne sont pas bleues. Le sang reste rouge, mais ta veine est blanche. Mais c'est la perception du sang qui passe dans tes veines blanches. Donc, le blanc...
On est toutes là à regarder, bro!
Et le sang dans tes veines blanches, donc la couleur, le soleil ou la couleur blanche va être absorbée par le rouge de ton sang et va faire ressortir l'impression que tes veines sont bleues.
On entend souvent dire que le poisson a une mémoire de 3 secondes.
C'est faux.
Mythe ou réalité?
C'est faux. C'est faux parce qu'il y a des poissons que tu peux entraîner à faire des choses. Donc, nécessairement, ils se souviennent.
Exactement. Le meilleur exemple qu'on peut donner à des poissons rouges qu'on a depuis plusieurs semaines, voire des années, c'est qu'ils ont une routine lorsqu'on les nourrit.
Oui.
Donc, ils reconnaissent que, oups, là, c'est le temps de nourrir, puis ils vont reconnaître, puis ils vont s'agiter. Donc, effectivement, il y a une mémoire de plus de 3 secondes.
J'ai l'air de te surprendre, Audrey. Tu me regardes avec des regards.
Bien, honnêtement, tu me surprends ce matin.
Hey, j'en ai une question pour toi. Est-ce que toutes les étoiles que tu vois dans le ciel, sont encore en vie?
Non.
Existent encore. Pourquoi?
Bien, ça dépend toujours de l'endroit où est-ce qu'ils sont. Et de la vitesse de la lumière.
Ouais.
Donc, bien souvent...
Tu sais, quand t'expliques ça à des enfants, là...
T'es mère!
Ils comprennent pas!
C'est sûr!
C'est pas... ce qu'on peut penser, si... tout dépend de où est-ce qu'elle est, là, puis la grosseur qu'elle est, mais c'est sûr qu'il y a des étoiles qui sont probablement mortes, puis que...
On les voit encore.
Si t'as fait 500 années-lumière d'ici, ben, tu sais, il faut l'expliquer. C'est une théorie de relativité puis de la vitesse de la lumière, là. Mais il peut y avoir bien des étoiles qui reflètent, qui sont inexistantes depuis plusieurs années. Mais encore là, il faut qu'ils soient très, très, très loin de la Terre et très sentients.
Mais quand t'expliques ça aux enfants, c'est capoté. Puis j'ai essayé de le faire l'an passé que mes gars sont encore un peu trop jeunes, mais je leur disais, exemple, 500 années-lumière, ça prend 500 ans avant que la photographie arrive à nous.
Oui.
Puis là, ils étaient là, ouais, mais elle est encore là, je la vois. Non, non, c'est que le soleil reflète sur l'étoile. L'étoile nous renvoie la lumière, c'est ça, hein? L'étoile nous renvoie la lumière, puis ça prend 500 ans avant que ça arrive. Bon, peut-être que je me reprendrai l'année
prochaine. Est-ce que l'étoile polaire, c'est la plus brillante du ciel?
Selon la légende.
La légende? C'est Sirius, l'étoile la plus... Donc, à savoir, des fois, il y a une application là, avec le cellulaire. Je ne me rappelle plus c'est quoi l'application qu'on regarde le ciel. Là. Puis quand tu la regardes, ils disent exactement ce que sont positionnées les étoiles. Là. On peut voir Sirius. Puis quand vous voulez voir Sirius, où est-ce qu'elle est, qui est vraiment pas à la même place que l'étoile polaire... Mais vous allez voir qu'elle est beaucoup plus scintillante, du moins qu'elle brille plus que l'étoile polaire.
Les ongles et les cheveux, est-ce que ça pousse après la mort?
Et tabarouette, ça, c'est une autre légende qui circule depuis des années et des années. Je pense que oui, mais pas très, très longtemps. Ça doit être quelques minutes sans plus.
Bon. Tu dis quelques minutes. En principe, quand on le décède...
C'est fini.
C'est fini. Donc, ouais. Les ongles arrêtent de pousser puisqu'ils n'ont plus d'apport en sang frais, qui fait qu'ils ne sont plus nourris et ils vont carrément arrêter de pousser. C'est quoi l'impression qui fait que... Voyons, il me semble que les cheveux ont poussé puis c'est une personne qui est morte depuis quelques jours. C'est l'impression juste que quand on décède, on se déshydrate. Donc, la peau devient plus ou moins plus flasque, plus serrée. On change de look en tant que tel quand on décède, qui fait que parce qu'on désenfle, on a l'impression d'avoir des cheveux plus longs. On a l'impression d'avoir des ongles plus longs. Mm-hmm. Mais c'est carrément notre peau qui se tumifie parce qu'on est décédé qui donne cette impression-là. Ouais. Donc, c'est plus que notre peau qui se transforme. Et on sait que les cheveux, quand on décède, le cheveu reste un cheveu. Mais la peau, elle va commencer déjà à se transformer. Et c'est l'impression de cette transformation-là qu'on adhère à penser que les ongles continuent à pousser ainsi que les cheveux.
Ça se dégrade-tu à un moment donné, les cheveux?
C'est très long. Tu sais, c'est un cheveu, oui, c'est organique, mais c'est solide, c'est un genre de substance chimique, de la kératine. Il y a beaucoup de produits qui font en sorte que le cheveu est très résistant et va finir par se biodégrader, mais plusieurs années après la mort.
Oui, puis tu sais, ce que Marc a dit concernant la peau et tout ça, les cheveux qui poussent, peut-être qu'on a l'impression qu'ils ont poussé et tout ça, c'est quand on voit la photographie du décès d'Elvis... Elvis Presley, quand il est dans sa tombe, les gens disent qu'il était méconnaissable. Il était rendu tout petit. C'est juste qu'il avait complètement déshydraté. Si tu regardes la photo d'Elvis, là, une journée avant sa mort versus celle où il est dans son cercueil, il ne se ressemble plus du tout. Là.
Exactement.
C'est plus la même personne.
Tu me donnes envie d'aller googler. Là. ça m'écœure bien raide, je vais te le dire, là, Marc, honnêtement. Faut pas manger une orange après avoir bu du lait. Ça fait cailler dans ton estomac. Est-ce que c'est vrai, cette affaire-là?
Tabarouette!
On l'entend souvent. Hein? Prends pas ça avec du lait, là, ça va faire cailler le lait.
Ouais. Il y avait même une recette, un drink que je faisais au bar dans le temps, que c'était quelque chose qui caillait quand même assez rapidement.
Ah ben oui, mais ça, on fait ça à l'Halloween, ça fait comme des petits cerveaux.
Ouais,
là.
Je ne me rappelle plus c'était quoi le drink, mais on le faisait. Écoute, je pense que ça peut cailler, mais ça n'a aucun impact sur le système.
C'est un mythe.
C'est un mythe?
Parce que le jus d'orange n'a absolument pas rapport dans l'équation. Notre estomac est encore plus acide que le jus d'orange. De sorte que le lait, quand on le boit, oui, le lait, on dit que ça a un pH neutre, mais le lait va se biodégrader, va se dégrader par les acides et il n'y aura pas de... Puis s'il y a un caillou, bien, ça va être volontaire, mais ça va être pour aider la digestion. Bien, c'est juste que les acides gastriques sont encore plus acides que l'orange, donc ça n'a aucune incidence.
Et mon Dieu, pourtant, vite de même, là, on dirait que j'aurais pu y croire, là, avec tout ce qu'on fait comme expérience dans des verres. Là. La gomme qu'on avale... Mm. Est-ce que c'est vrai que ça reste collé dans notre corps? Je me faisais dire ça quand j'étais jeune. N'avale pas ta gomme, ça va rester collé.
Moi, je pense que non.
Tu penses qu'on la digère?
Oui.
Marc?
On la digère, ben, je dirais, bien. Des fois, elle va sortir de la même manière qu'elle a rentré dans sa conformation. Mais d'ordre général, on va être capable de la dégrader. Savez-vous que dans une gomme, avez-vous déjà regardé les ingrédients d'un paquet de gomme?
Non.
La recette de fabrication de la gomme, elle n'est jamais nommée. Hein? On marque « base de gomme ». Mais après ça, on va mettre les saveurs, le sucre et tout ça là. Mais il n'y a personne... C'est une recette qui appartient, entre autres, à Wrigley. Tu sais, la marque Wrigley qui fait, là, l'exemple, la Juicy Fruit, par exemple. Là. Ça existe et... Absolument. Puis la recette de la gomme est en fait faite à base... d'hydrocarbures. Donc, la recette de ça, c'est que, oui, quand on prend une gomme, on se met dans la bouche quelque chose qui est à base de pétrole, qui donne à la gomme son côté élastique, qui donne son côté qu'on peut mâcher longtemps, qu'elle va finir par durcir avec le temps, mais c'est à base d'hydrocarbures. Mais on n'est pas capable de savoir quel type d'hydrocarbure, quelle quantité qu'elle a, parce que la seule affaire qu'on met comme ingrédient, c'est base de gomme. Mais c'est quoi la base de gomme?
Ben, s'il y avait mis pétrole, il n'y a personne qui
Il n'y a jamais personne qui a voulu investiguer là-dessus.
Non, puis peu importe la compagnie qui fait de la gomme, elle met base de gomme. C'est un secret. C'est pire que la caramine. Donc, c'est base de gomme. Un peu comme le Coca-Cola. Il n'y a personne qui est capable de voir qu'est-ce qui fait que ça goûte le Coca-Cola, mais c'est une recette équivalente.
Puis microplastique, c'est-tu vrai?
Les microplastiques, ça, c'est un autre phénomène. Les microplastiques, oui, on peut en avoir dans de la gomme, il peut en avoir dans le maquillage, il peut en avoir dans les rouges à lèvres, il peut en avoir dans tout ce qui contient du plastique. Exemple, puis ça, c'est un fléau, parce qu'il y a les microplastiques, les nanoplastiques. Depuis que les plastiques existent, il y a une accumulation incroyable de microplastiques dans les eaux et dans l'environnement qui peut devenir des ingrédients qu'on ingère, mais qui vient principalement de la biodégradation, de la dégradation des plastiques qu'on jette dans les poubelles, qu'on jette dans les océans. Il y a plusieurs pays où est-ce que les normes de dépotoir sont à désirer et ils ne recycleront pas les plastiques, ils vont jeter ça dans l'environnement, ils vont jeter ça dans les océans. Et le plastique finit par se dégrader en microplastique et ça fait des milliards et des milliards et des milliards et à l'infini de petites particules qui ont fini par ingérer de toutes formes de manières, qui pourraient même, un exemple, les gens qui achètent de l'eau en bouteille que tu achètes toi-même. Même si on pense que l'eau n'a pas de microplastique, parce qu'on dit hey, « c'est une eau de source », elle en contient. Donc, on consomme des microplastiques à tous les jours. Ils vont dire « ouais, mais ça vient de où? » Bien, parce qu'il est embouteillé dans du plastique, le plastique a toujours des microparticules à sa surface. Un exemple, quand on dévisse le bouchon, bien, juste dévisser le bouchon, là, il y a une irritation qui se fait du bouchon. Il y a des microplastiques qui rentrent dans votre eau et vous le consommez.
Fait qu'on peut pas s'en sortir.
Présentement, la seule affaire qu'on peut dire,
Audrey, c'est qui cherche un moyen de s'en sortir.
Ben, c'est comme un genre de polluant qu'on est pogné avec. La bonne ou mauvaise nouvelle, c'est que présentement, il y a énormément d'études à savoir. Il y a des microplastiques qui circulent dans nos sangs, dans nos organes. Mais ouais. Au moment où on se parle... Il n'y a pas d'études définies qui fait que les microplastiques vont finir par créer un cancer ou un trouble XYZ. Par contre, on sait que dans la nature, les microplastiques, sur certains types d'animaux, ils vont avoir des retards de reproduction, comme un exemple de petits microcrustacés qu'on appelle des daphnés. Quand on les met en contact avec des microplastiques, ils ne se reproduisent plus. Il reste que ça a quand même un effet sur la chaîne alimentaire, mais sur l'être humain lui-même, est-ce que les microplastiques vont finir par causer une pathologie qu'on va être capable d'identifier dans le futur? Ça reste à déterminer, mais il reste qu'on est entouré de microplastiques, les océans en sont pleins, et même des produits de consommation en a, donc on est entouré de microplastiques.
Audrey, Marc, il reste 30 secondes, puis on va devoir se quitter. Je vous pose cette dernière question. Est-ce que la foudre peut frapper le même endroit plusieurs fois? Audrey?